Vous écoutez On lit pour vous.
Le canot à glace, une activité fascinante à découvrir. Un texte commandité paru le 19 novembre 2024 dans la presse. Saviez-vous que le canot à glace est un sport unique qui ne se pratique nulle part ailleurs dans le monde? En 2014, il a même été désigné comme un élément du patrimoine immatériel du Québec. Si vous avez envie d'un peu de nouveauté à l'approche de la saison froide, découvrez cette activité hivernale hors du commun. Un moyen de transport à l'origine. Avant d'être une activité sportive, le canot à glace avait une fonction purement utilitaire. Quand il n'y avait pas de pont de glace pour traverser le fleuve Saint-Laurent l'hiver, le canot à glace était essentiel pour transporter des personnes, des marchandises et du courrier d'une rive à l'autre, notamment entre Québec et Lévis, mais aussi entre les îles, comme l'île aux Coudres et la terre ferme, raconte Julien Harvey, propriétaire de l'entreprise Canot à glace Expérience. L'utilisation de ce moyen de transport remonterait au début de la colonisation, au 17e siècle. Mais c'est au 19e siècle que sa pratique a connu son apogée. Dans les années 1860, plus de 200 canotiers assuraient en effet la traversée entre Québec et Lévis en canot, au gré des glaces. Un sport de compétition. À la fin du 19e siècle, l'arrivée de bateaux à vapeur capables de se frayer un chemin à travers les glaces du fleuve entre Québec et Lévis est graduellement venue faire disparaître le métier de canotier d'hiver. La pratique du canot à glace a néanmoins continué de s'exercer dans un tout autre registre que le transport, prenant alors une forme compétitive. En 1894, une première course officielle en canot à glace a été organisée à l'occasion du Carnaval de Québec. D'autres courses ont eu lieu ensuite par intermittence entre les deux rives pendant une cinquantaine d'années. Ce n'est toutefois qu'à partir de 1955 que la course en canot à glace est devenue une épreuve officielle de la programmation du Carnaval de Québec. Une technique bien particulière. Lorsque le canot se trouve sur l'eau, l'équipage, formé de 5 personnes, un barreur et 4 rameurs, fait avancer l'embarcation à l'aide de grandes rames fixées au bateau. Pour se déplacer sur les glaces, les canotiers prennent plutôt la position de la trottinette, c'est-à-dire qu'ils ont une jambe dans l'embarcation et l'autre à l'extérieur, et ils font ensuite glisser le bateau sur les glaces en poussant avec leur pied extérieur, qui est muni de crampons, précise M. Harvey. Le canot à glace s'avère une activité unique au monde qui ressemble plus à la pratique de l'aviron qu'à celle du canot d'été. Une association et un circuit québécois de canot à glace. Plusieurs courses en canot à glace ont eu lieu à différents endroits dans la province au cours des dernières décennies. En 1984, l'Association des coureurs en canot à glace du Québec a vu le jour pour mieux réglementer la pratique compétitive de ce sport traditionnel. Elle représente aujourd'hui plus de 300 membres. Depuis les années 2000, un circuit québécois de canot à glace a également été développé. Il contribue à l'organisation de plusieurs courses annuelles entre janvier et mars et compte des équipes de classe sportive et élite. Ainsi, chaque année, entre Montréal et Rimouski, des canotiers et des canotières se mesurent aux conditions hivernales du fleuve Saint-Laurent dans le but de remporter la Coupe des glaces. Un loisir aujourd'hui accessible. Bien entendu, le canot à glace demande une bonne forme physique pour être en mesure de manœuvrer l'embarcation sur les eaux gelées du fleuve Saint-Laurent. Cette activité sportive n'est toutefois plus réservée aux athlètes qui participent aux courses compétitives. Depuis 2019, l'entreprise Canot à glace Expérience offre en effet des activités d'initiation aux néophytes. Notre mission, dit Julien Harvey, et de démocratiser le sport auprès du grand public en proposant une initiation au canot à glace sur le fleuve. accompagnés de guides professionnels qui ont une connaissance approfondie des courants et des marées, les participants et participantes vivent une expérience sportive hors du commun. Tout l'équipement spécialisé est fourni et l'activité est adaptée en fonction de chaque groupe, poursuit M. Harvey. À la fin de l'aventure, les canotiers amateurs peuvent même troquer leurs crampons pour leurs sandales de plage et se réchauffer dans un sauna nordique avec une vue panoramique sur le fleuve. C'était le canot à glace, une activité fascinante à découvrir, un texte commandité paru le 19 novembre 2024 dans La Presse.
Une loi agricole empire le smog en Inde. Un texte de Karishma Mehrotra du Washington Post, paru le 25 novembre 2024 dans La Presse. Une loi indienne visant à préserver la nappe phréatique a entraîné l'aggravation spectaculaire du smog à New Delhi et dans la région, déjà tristement célèbre pour son air vicié. Comme quoi l'enfer est pavé de bonnes intentions. Depuis des décennies, les fermiers du nord de l'Inde brûlent les chaumes qui restent après la récolte du riz en vue des prochaines semailles. Or, dans une partie du pays, les autorités indiennes ont ordonné en 2008 de retarder de quelques semaines les semailles de riz de l'été afin de profiter de l'arrivée de la saison des pluies et de préserver la nappe phréatique. Mais on n'a pas tenu compte du fait que les vents dominants auraient changé au moment de la récolte décalée. Et le brûlage, ces jours-ci, coïncide avec l'automne et ces vents qui soufflent la fumée dans les plaines du nord de l'Inde. Depuis cette initiative, les particules de fumée ont augmenté de 20 % dans les villes du nord de l'Inde, dont New Delhi, selon des chercheurs américains et indiens. L'air empoisonné de New Delhi a atteint la semaine dernière son pire niveau en 5 ans, obligeant l'État à fermer écoles, chantiers et certains bureaux. La saison du riz s'est décalée et on pourrait penser que tout va bien, dit Loretta Mickley, chimiste de l'atmosphère à l'Université Harvard. Le commun des mortels dira « Qu'est-ce que les eaux souterraines ont à voir avec la pollution de l'air? Quel rapport entre les eaux souterraines et le smog à Delhi? » Mais les agriculteurs indiens disent qu'ils peuvent voir l'impact. La famille de Gurpreet Sangha possède des terres dans 2 États indiens. Dans l'État occidental du Rajasthan, où le report imposé par le gouvernement ne s'applique pas, on récolte et brûle comme avant, fin septembre. Dans l'État du Punjab, dans le nord du pays, on récolte et brûle 1 mois plus tard, après que les vents ont tourné. En fait, la loi du Punjab interdit de mettre en terre les plants de riz dans les rizières avant la mi-juin, à l'arrivée de la mousson, ce qui décale récolte et brûlage. Ces terres du Rajasthan et du Punjab dégagent la même fumée, ni plus ni moins, dit M. Sangha. En septembre, au Rajasthan, la fumée se dissipe dans tous les sens. Mais en octobre et en novembre, au Punjab, la fumée va étouffer Delhi. Ils ont réglé un problème et en ont créé un autre, a-t-il ajouté. Les États septentrionaux du Punjab et de l'Haryana sont le grenier de l'Inde, où on fait alterner la culture du riz et celle du blé. Mais les rizières requièrent beaucoup d'eau et l'épuisement des nappes phréatiques dans ces États mettait en péril l'approvisionnement alimentaire du pays. Vent changeant. En 2008, ces États ont donc adopté une loi reportant les semailles à la mousson, repoussant ainsi la récolte et le brûlage des chaumes. Avant cette loi, les vents à la récolte étaient actifs, turbulent, créant plus de ventilation, explique Madame Mickley. Depuis la loi, l'air pollué reste près du sol. On a de remarquables images satellites d'immenses panaches de fumée se déplaçant lentement, lentement. Depuis 2018, ses collègues et elle publient des articles scientifiques documentant ce phénomène. Le report de la culture du riz entraîne aussi plus de brûlage qu'avant, selon des entretiens avec des agriculteurs, des sondages et des données satellitaires. En effet, les fermiers ont moins de temps pour préparer les champs pour leur prochaine culture, généralement du blé, et brûlent au lieu de retourner le sol. Selon les chercheurs de Harvard, le report des cultures de 2008 coïncide avec une augmentation de 40 % des brûlages au Pendjab. Il faut prendre du recul et tout reconsidérer, estime Tina Liu, doctorante à Harvard, qui a calculé l'impact du report sur le smog. Elle souligne qu'optimiser la saison agricole a un impact sur la santé publique. Malgré les données, le haut fonctionnaire, auteur du décret, nie tout impact sur la pollution de l'air. Il n'y a pas la moindre conséquence inattendue de cette loi, affirme Kahan Singh Panu, ancien secrétaire du ministère de l'Agriculture du Pendjab. Selon lui, le report des semailles n'a pas retardé les récoltes, car les nouvelles variétés de riz mûrissent plus vite. Et si les vents charrient aujourd'hui de la fumée sur Delhi, c'est peut-être dû au changement climatique, a-t-il déclaré, et non à sa loi. Fils d'agriculteur, M. Panu explique s'être alarmé dès 2006 du tarissement rapide de la nappe phréatique du Pendjab. Il a mis une demi-heure pour rédiger son projet de loi retardant la culture du riz, se souvient-il, et la mesure a été mise en œuvre durant les années suivantes. Sans cette loi, il n'y aurait plus une seule rizière dans le nord de l'Inde aujourd'hui, et notre pays importerait peut-être des céréales vivrières, a-t-il déclaré. Des flammes tout autour. Le gouvernement interdit le brûlage des chaumes, mais une enquête sur le terrain menée par des chercheurs en 2016 et 2017 a révélé que 80 % des agriculteurs du Pendjab le faisaient après la récolte du riz. Depuis 2019, la Cour suprême de l'Inde a rendu plusieurs décisions tenant agriculteurs et fonctionnaires responsables des brûlages. Mais cette pratique persiste, crachant dès l'automne des fumées cancérigènes dans le ciel de Delhi. Selon des agriculteurs pendjabi rencontrés par le Poste, faire brûler les chaumes après la récolte du riz basmati est incontournable. D'une part, une déchaumeuse, une machine aratoire qui retourne le sol, coûte trop cher et prend trop de temps. D'autre part, les éléments nutritifs contenus dans les chaumes brûlés nourrissent la récolte de blé qui suit. Dans un champ, l'un d'eux a sorti une boîte d'allumettes de sa poche, s'est mis un mouchoir sur le nez et a craqué une allumette qu'il a jetée sur un tas de chaumes. Le feu s'est propagé, dégageant une fumée noire et laissant des cendres. Travaillant la flamme avec une fourche, il s'arrêtait de temps en temps pour frotter ses yeux rougis par la fumée. « Je n'ai pas le choix », a déclaré le fermier de 26 ans, qui a demandé l'anonymat parce que cette activité est illégale. Il a montré du doigt le nuage noir au-dessus de sa tête. « Si je commence à penser à la pollution, ma famille va crever de faim. » En 15 minutes, un épais panache de fumée recouvrait ses 4 hectares de champs. Des dizaines d'autres brûlages étaient visibles tout autour. Selon Jyoti Pandey Lavakare, militant écologiste à New Delhi, le problème remonte à la Révolution verte de l'Inde il y a 60 ans, qui a amené de nouvelles pratiques agricoles, l'irrigation et l'utilisation d'engrais. Les fermiers du Pendjab ont alors pu planter du riz et du blé dans cette région où on cultivait auparavant d'autres cultures nécessitant moins d'eau. Mais selon des experts agricoles, la culture du riz y est de moins en moins viable. Aujourd'hui, le report des semailles pourrait affecter non seulement l'air de Delhi, mais aussi le climat mondial. Selon des chercheurs, le brûlage des chaumes libère dans l'air du carbone noir qui convertit le rayonnement solaire en chaleur, ayant un effet de serre similaire au CO2. Des scientifiques et le gouvernement indien ont constaté que le carbone noir, communément appelé suie, retombe sur les glaciers de l'Himalaya, qui absorbent plus de chaleur et fondent plus vite. L'être humain est inventif. Il essaie toujours des améliorations, dit Mme Mickley. Mais les scientifiques et les décideurs politiques doivent savoir que des conséquences imprévues peuvent survenir quand on apporte des changements à grande échelle, comme reporter les récoltes de centaines de milliers de fermes. C'était une loi agricole empire le smog en Inde. Un texte de Karishma Mehrotra du Washington Post, paru le 25 novembre 2024 dans La Presse.
Que faut-il pour diriger un musée? Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 23 novembre 2024 dans Le Devoir. Quelles aptitudes et quelles formations faut-il pour diriger ces grandes institutions culturelles de l'État que sont les musées? Les prérequis ont-ils changé? La Gazette officielle du Québec, datée du 20 novembre 2024, rend compte de l'embauche formelle de Maxime Penneau-Jobin à titre de premier directeur du nouveau Musée national de l'histoire du Québec. Ancien maire de Gatineau, chroniqueur, il possède une maîtrise en développement régional. Avant de se lancer en politique, il a notamment travaillé pour l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais. Une semaine plus tôt, pour succéder à Stéphane Laroche, passé au Musée d'art contemporain de Montréal, le Conseil des ministres a nommé l'ex-journaliste et conseillère municipale Julie Lemieux à la tête du Musée de la civilisation. En 2021, l'ex-députée et communicatrice Marie Grégoire était pour sa part nommée à la tête de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le navire amiral de la conservation et du patrimoine documentaire. Pareil profil, plutôt iconoclaste par rapport à ceux vus dans pareille fonction ailleurs, correspond-il à une nouvelle tendance qui se dessine au sommet des institutions culturelles? Une vision culturelle. Michel Côté a passé 10 ans en France pour concevoir et diriger le Musée des Confluences de Lyon. C'était avant de devenir le directeur du Musée de la civilisation à Québec. Il est un des rares Québécois à s'être retrouvé à la tête d'une grande institution à l'étranger. En entrevue au Devoir, il indique avoir déjà été membre de comités de sélection pour plusieurs institutions culturelles. La première chose qui doit s'imposer chez un candidat est sa vision culturelle. L'individu doit être capable de porter et d'incarner un projet à la fois culturel et scientifique. Il ne s'agit pas, pour lui, d'avoir des notions détaillées de tous les aspects, mais au moins une forte connaissance des collections dont il a la charge. En plus, il doit comprendre à quoi sert l'institution muséale. Selon Michel Côté, un conservateur ne saurait être un simple administrateur. Bien sûr que le travail doit se faire avec de la rigueur administrative, mais tout ne s'arrête pas là et ne passe pas que par ça. Rassurant. La direction des institutions culturelles a changé, expose pour sa part John Porter, ancien directeur du Musée national des beaux-arts du Québec, MNBAQ. Ce sont des emplois qui sont devenus plus lourds. Conservateur au Musée des beaux-arts du Canada puis à celui de Montréal, John Porter avait aussi été professeur à l'Université Laval avant d'occuper, de 1993 à 2008, les plus hautes fonctions du MNBAQ. Par le passé, explique John Porter, on cherchait des scholars, des savants, des développeurs, des gens capables de rassurer leur monde par leur savoir, tout en étant capables de communiquer avec le public autant qu'avec d'autres institutions. Tout s'est fractionné. Selon lui, il y a désormais moins d'attentes par rapport au contenu, du moins au Québec, en partie en raison des demandes des conseils d'administration. Selon John Porter, il était tout de même plus rassurant pour le personnel des institutions d'avoir affaire à quelqu'un capable de défendre des contenus en toute connaissance de cause. Quand vous avez un patron qui connaît les contenus, l'organisation se sent en sécurité. Et de là, croit-il, une institution pareille est en mesure de progresser. Un bon directeur, ça ne se contente pas de travailler avec des administrateurs. Toujours politique. Pour Yves Bergeron, professeur à l'UQAM et spécialiste des tendances sociétales qui transforment le monde muséal, il faut comprendre qu'au Québec, c'est toujours le ministère de la Culture et des Communications qui a le dernier mot dans les nominations. Le point de vue du ministre doit être considéré. Michel Côté va plus loin en précisant que c'est le conseil exécutif qui nomme le directeur de l'institution muséale publique. Le CA fait des recommandations, mais c'est le conseil exécutif qui entérine. Ce qui, selon lui, a pu entraîner des changements dans la conception de la place et du rôle du musée dans notre société. Désormais, les institutions semblent chercher plus des gestionnaires, capables de s'aligner sur les nouvelles règles de gouvernance, expose Yves Bergeron. Le professeur considère que ce type de nomination part du principe qu'il y a déjà des spécialistes sur place et qu'au sommet de l'édifice, conséquemment, un savant n'est pas forcément requis. Vous écoutez « Que faut-il pour diriger un musée ?» un texte de Jean-François Nadeau, paru le 23 novembre 2024 dans Le Devoir. Les nominations sont toujours politiques au Québec, considère Yves Bergeron, de par la structure même de l'appareil public en place. Il rappelle que la nomination de Roland Arpin à la tête du Musée de la Civilisation en 1987 avait suscité des critiques, aujourd'hui oubliées. On avait dit qu'il s'agissait d'une nomination politique. L'ancien sous-ministre avait pourtant, dans les faits, une feuille de route plus qu'impressionnante en matière culturelle. Roland Arpin était aux affaires culturelles depuis 1980, en plus de jouer un rôle majeur au Conseil du Trésor. Tout du monde de la culture transitait par lui, et c'est lui qui élaborera un plan de politique culturelle pour le Québec, tout en proposant par ailleurs, à la demande de la France, ses perspectives pour relancer le Musée national des arts et traditions populaires à Paris. Et ailleurs, les règles et les critères pour les nominations à la tête des institutions culturelles sont bien différentes ailleurs, observe Yves Bergeron. En France, il existe une loi sur les musées qui balise les nominations. Il faut passer des concours pour devenir conservateur d'un musée. Chaque année, ce sont de 1 à 1200 candidats qui se présentent. À partir de là, une dizaine de têtes sont retenues pour être formées. Personne ne peut se retrouver à la tête d'un grand musée sans être passé par ce filtre. Aux États-Unis, c'est un peu différent, mais les exigences demeurent très élevées, poursuit-il. Il y a beaucoup de monde avec un très haut degré de formation. Les gens compétents avec de très gros curriculum vitae ne manquent pas. Aux États-Unis, quand tu engages quelqu'un à la direction d'un musée, il vient avec un carnet d'adresses important, explique Yves Bergeron, ce qui conduit au rayonnement international et local de l'institution qu'il représente. Mis à part Michel Côté, peu de Québécois se sont retrouvés à la tête d'institutions muséales internationales en étant à même de dialoguer d'égal à égal avec d'autres directions d'institutions. C'est le cas de Stéphane Aquin, qui a pris la direction du Musée des beaux-arts de Montréal, MBAM, en 2020. Éduqué en Suisse et à Montréal, il a été critique d'art puis conservateur de l'art contemporain au Musée des beaux-arts de Montréal pendant 16 ans, avant de devenir le conservateur en chef du Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de la Smithsonian Institution, une des institutions les plus prestigieuses de Washington. Il a quitté cette fonction pour remplacer Nathalie Bondil à la direction du Musée des beaux-arts de Montréal. Celle-ci était une ancienne élève de Guy Cocheval à l'École du Louvre. Cocheval avait dirigé le Musée des beaux-arts de Montréal de 1998 à 2006, avant que Mme Bondil ne lui succède. Cette dernière est désormais directrice du musée de l'Institut du monde arabe à Paris. Michel Côté affirme qu'il importe de compter sur une solide formation pour œuvrer à armes égales avec des conservateurs d'autres institutions à travers le monde. Il faut avoir de l'expérience et avoir la maîtrise de contenus spécifiques très poussés, tout en ayant une vision de ce qu'est la muséologie sur la scène internationale. Non seulement faut-il avoir des compétences dans plusieurs disciplines, il faut aussi savoir ce que l'on en fait, assure-t-il. Sinon, à son sens, impossible de conduire plus loin une institution. En Allemagne et en Suisse, on est très rigoureux aussi sur le contenu que doivent maîtriser les directeurs des institutions, explique Michel Côté, qui a été président de la Société des musées du Québec. D'ailleurs, ces gens se présentent d'abord sous l'angle de la culture. En beaucoup d'endroits, ils tiennent au titre de conservateur bien avant leur titre d'administrateur. Dans les musées, expose-t-il, il importe d'avoir affaire à des gens capables de travailler avec diverses compétences. Mais il faut des gens qui sont capables de tisser des liens qui ne sont pas qu'économiques. À l'heure où il se consacre à mettre à jour un ouvrage sur la muséologie aujourd'hui, Michel Côté ne souhaite pas commenter les nominations faites au Québec ces dernières années. Il observe cependant qu'existent des périodes dans la vie des sociétés où des nominations sont vouées plus à la gestion rigoureuse qu'au fait d'entreprendre un vrai dialogue culturel. Il estime qu'on doit néanmoins se rappeler à quoi doivent servir les institutions culturelles. Pour lui, elles ne sauraient se réduire à une affaire administrative. C'était « Que faut-il pour diriger un musée ?» un texte de Jean-François Nadeau paru le 23 novembre 2024 dans Le Devoir.